que tu es un Dieu qui parle. Bien sûr, tu parles à travers les Écritures, mais tu parles aussi à l'intérieur des cœurs. C'est tellement immense, Seigneur. Ça défie ma raison. Et pourtant, c'est vrai. Et quand tu parles, Seigneur, c'est toujours pour guérir quelque chose. Alors, merci, Seigneur. Tu veux encore parler aujourd'hui, maintenant, à travers la parole que nous allons lire et commenter. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit présent, vraiment, et nous montre ce qui nous concerne dans les paroles que nous allons entendre. Sois vraiment béni, Seigneur. Amen.
Amen.
Aujourd'hui, je vais vous lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, une parabole que vous connaissez tous, c'est la parabole du bon samaritain. Ceux qui fréquentent l'Église depuis 40, 50, 60 ou 70 ans, vous avez dû souvent entendre le commentaire de cette parabole, mais vous allez voir que c'est un tout petit peu particulier cette fois-ci. Ne croyez pas ce que je sais ce que vous pensez, mais c'est pas ça. Donc, Luc chapitre 10, verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendit par le même chemin et vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Là où je vous ai dit que vous pourriez être surpris, c'est que le texte que vous allez entendre, que je vais lire, n'est pas de moi, mais de quelqu'un que vous connaissez tous, Martin Luther King. Ce pasteur baptiste qui a lutté toute sa vie contre la ségrégation raciale et qui a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans l'État du Tennessee. J'ai juste condensé ce texte et je l'ai adapté pour qu'il entre dans le cadre d'une prédication et aussi pour qu'il soit facilement accessible à l'audition. Et il est extrait de ce livre, La force d'aimer, qui est paru chez Casterman en 1964. Alors, au cours du texte que vous allez entendre, vous verrez qu'il y a un contexte américain. Et je pense que, en changeant un petit peu les noms, le contexte français, le contexte européen pourrait être aussi bien compris. Je voudrais parler d'un homme bon, dont la vie exemplaire sera toujours une lumière éclatante, troublant la conscience endormie de l'humanité. Sa bonté ne se fondait pas sur une confiance passive, en un credo particulier, mais sur sa participation active pour sauver une vie. La préoccupation éthique du docteur de la loi qui interroge Jésus est exprimée dans une histoire qui débute par une discussion théologique à propos de la vie éternelle et qui s'achève par un exemple concret de compassion sur une route dangereuse de Judée où des brigands faisaient la loi. Cet homme a été formé dans tous les détails de la loi juive et il pose cette question à Jésus: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu y dis ?» lui demande Jésus. Le docteur de la loi cite immédiatement Deutéronome 6, 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors vient la parole décisive de Jésus. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais voulant se justifier, l'homme demande alors à Jésus: « Mais qui est mon prochain ?» Jésus ne veut pas se laisser entraîner dans une discussion théologique. Il raconte alors l'histoire du Samaritain. C'est comme si Jésus disait à cet homme, mais surtout à nous aussi, à moi, à vous: « Votre prochain, c'est celui envers qui vous agissez en bon compagnon. C'est celui qui se trouve dans le besoin, au bord de la route. Il n'est ni juif, ni gentil, c'est-à-dire non juif. Il n'est ni russe, ni américain. Il n'est ni blanc, ni noir. C'est un homme. Tout homme dans le besoin. Un homme sur une des nombreuses routes de Jéricho de la vie. Jésus définit donc le prochain non comme une formule théologique, mais comme une situation vitale. En quoi consistait la bonté du bon samaritain? Pourquoi sera-t-il toujours le modèle d'une bonne relation? La bonté de cet homme peut être décrite par un seul mot: altruisme. Le bon samaritain était altruiste jusqu'au fond du cœur. L'altruisme, c'est quoi? C'est le souci et le dévouement pour l'intérêt des autres. Le samaritain était bon parce qu'il faisait de la préoccupation d'autrui la première loi de sa vie. Alors le Samaritain était capable d'un altruisme universel. Il percevait avec acuité ce qui est au-delà de la race, de la religion, de la nationalité. L'une des grandes tragédies du comportement des hommes dans l'histoire a été quoi ? La restriction du souci du prochain à la famille, à la race, à la classe, à la nation. Quelles sont les conséquences désastreuses de cette attitude à courte vue, centrée sur le groupe ? C'est que personne ne se soucie réellement de ce qui arrive aux gens en dehors de son propre groupe. N'est-ce pas pour cela que les nations s'engagent dans la folie de la guerre, sans le moindre sentiment de repentir ? N'est-ce pas pour cela que le meurtre d'un compatriote est un crime, mais que le meurtre des citoyens d'une autre nation en guerre est parfois vu comme un acte héroïque ? Si un homme blanc ne se soucie que de sa propre race, il passera sans intérêt auprès du noir qui a été dépouillé de sa personnalité, privé de son sens de la dignité et laissé pour mort sur quelque bas-côté de la route. Il y a quelques années, une auto transportant plusieurs membres d'une équipe de basket d'un collège noir a eu un accident sur une route du Sud et trois jeunes gens furent gravement blessés. Une ambulance fut immédiatement appelée, mais en arrivant sur place, le chauffeur, qui était blanc, déclara sans une excuse que ce n'était pas dans ses habitudes de servir des nègres. Et il repartit. Un automobiliste de passage conduisit bénévolement les blessés au plus proche hôpital, mais le médecin de service déclara d'un ton hostile « Nous ne prenons pas de nègres dans cet hôpital ». Lorsque les garçons arrivèrent enfin à un hôpital de couleur, dans une ville à quelques 70 km de l'accident, l'un était mort, les deux autres moururent respectivement 30 et 50 minutes plus tard. La vraie tragédie du repli sur le groupe, sur la famille ou la nation, et que nous voyons les gens comme des entités ou simplement comme des choses. Trop rarement nous voyons les gens véritablement en tant qu'hommes. Nous voyons les gens comme juifs ou gentils, c'est-à-dire non-juifs, catholiques, protestants, chinois, américains, noirs, blancs. Nous ne pensons pas à eux comme à des frères humains, faits de la même pâte que nous, modelés sur la même image divine. Le sacrificateur et le lévite ne virent qu'un corps ensanglanté, non un être semblable à eux. Mais le bon samaritain nous rappellera toujours qu'il faut détacher de nos yeux spirituels la cataracte de l'exclusion des autres pour voir les hommes comme des hommes. Si le Samaritain avait considéré le blessé d'abord comme un juif, il ne se serait pas arrêté, car les juifs et les samaritains n'avaient aucun rapport et se détestaient même. Il le vit d'abord comme un être humain, qui n'était juif que par accident. Le bon prochain regarde au-delà des apparences externes et il discerne les qualités intérieures qui rendent tous les hommes humains et donc frères. Le Samaritain était capable d'un altruisme universel, mais aussi d'un altruisme dangereux. Il a risqué sa vie pour sauver son frère, car la route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse. S'y attarder pour soigner le blessé pouvait le mettre en danger d'être agressé à son tour. Le prêtre et le lévite se sont peut-être posé cette question: que m'arrivera-t-il si je m'arrête pour aider cet homme? Même s'il craignait pour sa sécurité, le Samaritain a renversé la question. Qu'arrivera-t-il à cet homme si je ne m'arrête pas pour l'aider? Le Samaritain était engagé dans un altruisme dangereux. Nous nous demandons souvent, qu'arrivera-t-il à mon emploi, à mon prestige, à mon rang, si je prends position dans cette affaire? Ma maison sera-t-elle dynamitée? Ma vie sera-t-elle menacée? Irai-je en prison? Albert Schweitzer ne s'est pas demandé: que deviendront mon prestige et ma sécurité de professeur d'université? Que deviendra mon standing d'organiste spécialiste de Jean-Sébastien Bach si je travaille avec le peuple d'Afrique? Il se demandait au contraire: qu'arrivera-t-il à ces millions de gens blessés par l'injustice si je ne vais pas vers eux? Le noir, confortablement intégré dans la société, ne se demande pas: qu'arrivera-t-il à ma position assurée, à mon statut de classe moyenne, à ma sécurité personnelle si je participe au mouvement pour mettre fin à la ségrégation? Mais il se demande: qu'arrivera-t-il à la cause de la justice et aux masses du peuple noir qui n'a jamais ressenti la chaleur d'une sécurité économique si je ne participe pas activement et courageusement à ce mouvement? Un homme ne se mesure pas en définitive à la place qu'il occupe dans les moments de confort et de facilité, mais à celle qu'il occupe au temps de l'épreuve et de l'adversité. Le vrai prochain risque sa situation, son prestige et même sa vie pour le bien-être des autres. Le Samaritain était aussi animé d'un altruisme infini, exceptionnel. De ses propres mains, il a pansé les blessures de l'homme et il l'a chargé sur sa propre monture. L'altruisme authentique est plus que l'aptitude à la pitié. C'est l'aptitude à sympathiser. La pitié n'est peut-être pas beaucoup plus que le souci impersonnel vite prêt à envoyer un chèque. Mais la vraie sympathie, c'est le souci personnel qui réclame le don de soi. C'est un sentiment fraternel pour la personne dans le besoin, pour sa peine, pour son angoisse, pour son fardeau. L'argent sans amour, c'est comme le sel sans saveur. Il n'est plus bon qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Être un bon prochain requiert un engagement personnel. Une autre expression de l'altruisme infini du Samaritain a été sa volonté de faire plus que son devoir. Après avoir soigné le blessé, il a mis sur sa monture, l'a conduit à l'hôtellerie et a déposé l'argent nécessaire à son entretien, assurant que s'il y avait des frais supplémentaires, il y pourvoirait. Son amour était complet. Il faut faire une distinction entre les obligations qui peuvent être imposées et celles qui ne le peuvent pas. Les obligations imposées sont réglées par les codes de la société et l'application des lois. Mais les obligations qui ne peuvent pas être imposées échappent aux lois de la société. Elles concernent des attitudes intérieures, des relations vraies de personne à personne, des expressions de compassion que les traités juridiques ne peuvent pas régler et ne pourront jamais régler. Les obligations de ce genre découlent de la soumission personnelle à quoi? À une loi intérieure écrite dans le cœur de l'homme. Les lois humaines assurent la justice. Une loi supérieure produit l'amour. Aucun code n'a jamais persuadé un père d'aimer ses enfants ou un mari de montrer son affection à sa femme. Les cours de justice peuvent l'obliger à donner à sa famille le pain du corps. Elles ne peuvent pas lui faire donner le pain de l'amour. Un bon père obéit à ce qui ne peut pas lui être imposé de l'extérieur. Le bon samaritain représente la conscience de l'humanité, parce que lui aussi obéit à ce qui ne pouvait pas lui être imposé. Aucune loi au monde n'aurait pu produire cette compassion sans mélange, cet amour vrai, cet altruisme total. Dans notre quête d'un amour du prochain qui devienne une réalité, nous avons pour nous guider, outre l'exemple du bon samaritain, l'amour immense de Jésus. Son altruisme est universel, car il pensait à tous les hommes, même les publicains, on en a parlé dans la liturgie, même les publicains et les pécheurs, ils y pensaient comme à des frères. Son altruisme fut dangereux, car il traversa volontairement les routes hasardeuses pour une cause qu'il savait juste. Son altruisme fut infini, car il choisit de mourir sur la croix. L'histoire ne peut nous fournir l'expression plus magnifique de l'obéissance à la loi qu'on ne pourra jamais imposer, la loi intérieure de l'amour. Merci Seigneur. De nous avoir redit par l'intermédiaire de ce frère noir qui a été assassiné parce qu'il voulait la justice. Qui est notre prochain? C'est nous qui devons être le prochain des autres. C'est nous qui devons donner notre vie quand les hommes en ont besoin. Alors Seigneur, que les paroles que nous avons entendues secrètes. Reste bien dans nos cœurs. Que nous puissions apprendre à aimer, Seigneur. Que nous puissions apprendre à aimer celui qui en a besoin.